VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du lundi 4 mai 2020. Abdourahman Dia, la présentation, voici les titres. Manifestation au Mali contre les résultats des législatives par la Cour constitutionnelle. Journée presse morte au Cameroun, pas de journaux dans les kiosques ce lundi pour protester contre les conditions difficiles des médias. La pandémie du Covid-19 dans le monde, la maladie a tué plus de 250 000 personnes, dont 1800 en Afrique. Pendant ce temps, un téléthon est organisé à Bruxelles pour lever des fonds pour la recherche d'un vaccin. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les États-Unis ont donné leur accord pour la nomination du premier ambassadeur du Soudan à Washington en 22 ans. Sans être rompues, les relations entre les deux pays ont été au plus bas pendant les 30 années de régime du président soudanais Omar el-Béchir, renversé en avril 2019 après des manifestations populaires. Les États-Unis ont levé en 2017 les sanctions économiques pesant contre le Soudan, mais Khartoum reste inclus dans la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Au Mali, les décisions de la Cour constitutionnelle sur les dernières élections ont été suivies de vives tensions à Sikasso, Bougouni, Yanfola, Mopti, Nioro et à Bamako, la capitale. À Kaé aussi, les populations sont sorties pour contester le couvre-feu nocturne. Le point avec Kassim Traoré.
Ce matin, il y a eu des manifestations dans la ville de Bamako, plus précisément dans les communes 1, 2, 5 et 6. Des petits groupes de jeunes manifestent pour contester les résultats de l'élection législative. Les dites manifestations sont également organisées dans les villes de Kati et Sikasso. Au début des manifestations à Kati, le candidat Burama Traoré dit Bananzole Burama a été arrêté par la gendarmerie. Il a été conduit au camp 1 de Bamako, car actuellement, les manifestations sont interdites à cause du coronavirus. La situation actuelle était suivie par la police dans la ville de Kaï, où les populations ont manifesté pour demander la levée du couvre-feu. Pour ce qui est des contestations liées à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le juriste Brema Fomba pense qu'au regard de l'arrêt tel que publié dans le journal officiel, il n'existe aucune erreur matérielle, y compris dans les calculs des résultats. Pour lui, le document auquel les gens se réfèrent n'est qu'un document interne à la Cour sans valeur juridique et n'a absolument rien d'authentique au point d'engager la responsabilité de la Cour constitutionnelle. Pour les juristes, la page des législatives est désormais tournée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, la majorité des journaux privés n'ont pas paru ce lundi. Les éditeurs de presse ont appelé à une journée presse morte pour dénoncer les misères infligées aux entreprises de presse. À Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le refus de l'État de soutenir la résilience de la presse privée face à la pandémie du Covid-19 est l'un des motifs évoqués par le réseau des patrons de presse du Cameroun dans sa décision de faire presse morte ce lundi. Pour les directeurs de publication, l'aide aux médias privés n'est pas débloquée à temps. L'accès des journaux privés à la publicité de l'État est très limité, alors que le gouvernement est le plus gros employeur. Les journaux dénoncent également les arrestations arbitraires des journalistes et réclament la dépénalisation des délits de presse, toujours passibles de peine de prison. Les principaux titres francophones comme Le Messager, Mutation, La Météo, Info Matin ou encore Diapason ont été absents des kiosques ce lundi. Les publications anglophones ont affiché un bandeau disant « Grève des journaux pour non-paiement des factures, le gouvernement néglige les médias privés ». Le ministère de la Communication n'a pas encore réagi à cette grève dont le mot d'ordre a été lancé le 28 avril dernier. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier, la directrice de la Voix de l'Amérique a livré un message aux professionnels des médias dans le contexte du Covid-19. On écoute Amanda Bennett, donc directrice de la VOA.
Je suis Amanda Bennett, directrice de Voice of America, la Voix de l'Amérique. Et je m'adresse à vous de ma maison, où comme la plupart d'entre vous, je suis confinée à cause de la propagation du nouveau coronavirus. La crise de coronavirus est un événement qui démontre plus que jamais pourquoi une presse libre est si importante. Il y a tellement de mauvaises informations et de désinformations qui circulent actuellement que les gens dans le monde entier comptent sur nous pour leur fournir des informations factuelles. Et pour cette raison, nous sommes également dépendants de tous les braves journalistes du monde entier, y compris ceux vivant dans des endroits ne bénéficiant pas d'une presse libre, qui continuent de rendre compte de la réalité de la situation sanitaire dans leur pays.
C'était Amanda Bennett, directrice de La Voix de l'Amérique. Les habitants de Kigali ont repris le travail lundi alors que le Rwanda levait partiellement les mesures strictes de confinement adoptées 6 semaines plus tôt pour freiner la propagation du coronavirus. Dans la capitale, les commerces ont rouvert tôt et les clients ont afflué toute la journée, trop heureux de reprendre leurs activités. Toutefois, le couvre-feu reste maintenu. Le pays a enregistré à ce jour officiellement 259 cas de coronavirus et aucun décès. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1800 décès en Afrique et plus de 44 000 cas. Le point avec Eric Manerekiza.
Malgré une forte augmentation des cas de coronavirus au Nigeria, la majorité des 20 millions d'habitants de Lagos se disent lundi soulagés de pouvoir retourner au travail après 5 semaines de confinement. À Kano, la seconde ville du pays, les autorités ont annoncé que le virus est la cause de la plupart des dizaines de morts mystérieuses enregistrées depuis plusieurs semaines. En RDC, le nombre de cas enregistrés dans une prison militaire de Kinshasa a doublé en 48 heures, passant de 43 à 99. Les autorités sanitaires redoutent une propagation exponentielle. La prison d'Ondolo compte 1900 à 2000 prisonniers. En Algérie, plus de 460 décès ont été recensés pour 4474 cas. En autorisant la réouverture des commerces, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a demandé aux Algériens de continuer à observer avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection. 500 soignants sud-africains ont commencé lundi au Cap à tester les éventuels effets protecteurs du PCG utilisé depuis plus d'un siècle contre la tuberculose. Le bacille calmé et guérin a des effets sur le système immunitaire. Les scientifiques cherchent à démontrer qu'il pourrait avoir des effets bénéfiques similaires contre le coronavirus.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Europe a débuté le déconfinement. La directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Andrea Amon, recommande de maintenir des normes sanitaires élevées. La pandémie de COVID-19 a fait près de 250 000 morts dans le monde, dont 143 000 décès en Europe. Nathalie Barche.
En Europe, seule la Bulgarie continue de voir les cas augmenter. Dans les régions italiennes de Lombardie et de Vénétie, le port du masque est obligatoire dès la sortie du domicile. En Islande, les lycées et universités ont redémarré et l'Iran a rouvert les mosquées dans certains comtés. Des milliers de travailleurs palestiniens de Cisjordanie ont été autorisés à entrer en Israël pour le redémarrage de l'économie. Un téléthon mondial est organisé à Bruxelles afin de lever 7,5 milliards d'euros pour la recherche d'un vaccin et de traitement. Un autre téléthon va être organisé le 11 mai à New York au bénéfice des populations fragilisées par la pandémie. De nombreux projets de recherche sont menés dans le monde, dont 8 sont au stade des essais cliniques aux États-Unis, en Chine et en Europe.
Les autorités israéliennes ont demandé ce lundi la prolongation de la garde à vue de 2 franco-israéliens soupçonnés d'avoir profité de la pandémie de COVID-19 pour commettre une série de fraudes dans l'attente de leur éventuelle extradition vers la France. La police israélienne avait arrêté il y a une dizaine de jours ces 2 hommes pour tentative de fraude sur des sociétés basées en France. Les autorités françaises, qui ont demandé leur arrestation, les soupçonnent d'avoir proposé des projets immobiliers, de l'or et plus récemment des projets de recherche médicale liés à la maladie COVID-19. 9 policiers ont été kidnappés et exécutés par balles ce lundi par des assaillants inconnus dans la province de Dera, dans le sud de la Syrie. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a visé le siège de la municipalité dans la localité d'Al-Mazirib, un secteur proche de la frontière avec la Jordanie voisine, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La province de Dera est régulièrement secouée par des attentats contre les forces pro-régime. La Turquie a démenti ce lundi que ses pilotes aient harcelé un hélicoptère militaire transportant un ministre grec, affirmant qu'Athènes cherchait à attiser les tensions en formulant une telle accusation. Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères parle d'activités de routine en mer Égée. Le ministère grec des Affaires étrangères a condamné dimanche le harcèlement provocateur en mer Égée par des avions de chasse turcs d'un hélicoptère de l'armée grecque qui transportait le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée grecque, qualifiant cet acte d'inacceptable. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
En Côte d'Ivoire, les filières noix de cajou et coton vont perdre en 2020 l'équivalent de 500 millions de dollars de recettes à cause du coronavirus, a annoncé ce lundi le Conseil coton anarcade ivoirien. La Côte d'Ivoire espérait une production de 800 000 tonnes sur 2019-2020, mais cet objectif ne devrait pas être atteint. Le gouvernement ivoirien a annoncé en avril une enveloppe de 250 milliards de francs CFA pour soutenir les cultures agricoles d'exportation, dont le cacao et la noix de cajou. Le gouvernement sud-africain a annoncé qu'il allait créer une nouvelle compagnie aérienne nationale sur les ruines de South Africa Airways, précipitée par la pandémie de coronavirus. Lourdement endettée et récemment placée en redressement, la compagnie n'a enregistré aucun bénéfice depuis 2011 et ne survit depuis des années que sous perfusion de fonds publics. Le groupe Glencore a annoncé la reprise de l'activité de ses mines de cuivre en Zambie pendant 3 mois, mais confirmé son intention de les fermer définitivement ensuite en raison de la baisse des cours et de la pandémie de coronavirus. Le géant minier a mis en sommeil depuis avril les deux sites zambiens de sa filiale locale Mopani Copper Mines, s'attirant les foudres du gouvernement et des syndicats qui s'inquiètent de la mise en péril de ces milliers d'emplois. En Gambie, les professionnels du tourisme ont lancé un appel urgent à leur gouvernement et aux donateurs pour qu'ils les aident en raison de l'impact destructeur du Covid-19. L'économie de la Gambie, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, est lourdement tributaire du tourisme, principale source de revenus à côté de l'agriculture et de l'argent envoyé par les Gambiens vivant à l'étranger.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. La reprise annoncée de la Bundesliga allemande est déjà mise à mal. Une première série de tests a révélé 10 cas positifs de coronavirus dans les clubs de première et deuxième division. Sur les 1724 tests déjà effectués dans les 36 clubs concernés, 10 ont donné un résultat positif, affirme la Ligue allemande, qui ne dévoile aucun détail sur la localisation des cas et encore moins l'identité des personnes testées. Jusqu'ici, seul le FC Cologne a publiquement annoncé vendredi avoir 3 cas dans son effectif, 2 joueurs et un préparateur physique. Le statut des joueurs ayant été en contact avec un cas positif risque de poser problème pour la reprise des compétitions que la Ligue allemande espère relancer le 15 mai. Le protocole proposé par la Ligue pour la reprise du championnat prévoit la mise à l'écart des cas positifs, mais laisse entendre que le reste de l'effectif pourrait continuer à s'entraîner si les tests s'avèrent négatifs. Sur le continent, c'est demain la date butoir donnée par la CAF à ses associations membres pour donner leur position sur la reprise ou pas de leurs championnats respectifs suspendus pour cause du coronavirus. Le Maroc étudie la possibilité de terminer les championnats de première et deuxième division arrêtés le 14 mars dernier dès la fin du confinement. En Tunisie, le championnat devrait aussi reprendre en juin. Selon Mosaïque FM, la Fédération tunisienne de football a élaboré un projet pour la reprise de la Ligue 1. Les clubs reprendraient les entraînements entre le 11 et le 18 mai et la compétition se déroulerait entre le 10 juin et le 10 août. Toutes les rencontres auraient lieu à huis clos dans les stades de la capitale. La fédération propose donc que tous les clubs soient rassemblés à Tunis. Sur Kouak, le croissant sportif Chebien, club promu, s'oppose catégoriquement à la reprise de la compétition. L'actuel 9e de la Ligue 1 appelle donc la fédération à suspendre toutes ses activités. D'autres pays ont déjà donné leur verdict. Après la Guinée, l'Angola et le Kenya ont annoncé que leur championnat ne reprendrait pas. Pour rappel, la CAF a donné jusqu'au 5 mai aux différentes fédérations pour décider de la reprise ou de l'arrêt définitif de leur compétition.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'armée camerounaise affirme avoir tué au moins 22 combattants séparatistes au cours d'une semaine de raid contre 7 camps rebelles dans les régions anglophones du pays. De leur côté, des villageois accusent les militaires d'avoir tué au moins 13 civils lors de ces raids. C'est un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé avec le récit de Claire Moinjibour.
Le commandant de la région anglophone du nord-ouest du Cameroun a déclaré que plus de 300 soldats ont participé à des raids sur des bases de rebelles anglophones la semaine dernière. Le général Valerne Ka, depuis la ville de Bafout, a fait l'éloge des troupes camerounaises au nom du président Paul Biya.
Un bon nombre de rebelles ambazoniens ont été neutralisés. Nous avons récupéré 50 fusils, des pistolets, des munitions, des chevaux, des motos et même une voiture.
Le général Nka a déclaré que ses troupes ont tué jeudi et vendredi 15 rebelles à Bafout, dont un combattant qui se fait appeler général Aladji, qui a kidnappé en 2018 des dizaines d'écoliers. Selon le général Nka, les troupes camerounaises ont tué 7 autres rebelles lors de raids contre des repères dans plusieurs villages et dans la ville de Bamenda, sans faire de victimes civiles. Par contre, des villageois ont contesté cette affirmation en disant qu'au moins 13 civils ont été tués. Oumaru Tanda a témoigné depuis le village de Bangolan. Il affirme que 7 civils ont été retrouvés morts après le départ de l'armée. S'exprimant grâce à une application de messagerie, il a déclaré que 3 des personnes tuées sont des musulmans avec lesquels il a prié vendredi lorsque les militaires ont ouvert le feu.
Les militaires qui sont musulmans sont entrés dans la mosquée pour prier. Des rebelles ambazoniens sont venus attaquer les troupes, mais au lieu de tirer sur les rebelles, les militaires ont tiré sur les civils. Maintenant, dans le village, nous ne savons plus sur qui compter car nous comptions sur les militaires et maintenant les militaires ne tirent que sur nous.
Oumaru Tanda a déclaré que son village avait accueilli à bras ouverts les militaires dans l'espoir qu'ils vont empêcher les attaques des rebelles et les enlèvements. Dans la ville de Tatoum, dans le nord-ouest, Innocent Goumoula, un agriculteur, a raconté que 6 personnes, dont des adolescents, ont été tués dans les tirs croisés pendant des raids dans 3 villages voisins. Selon lui, les villageois s'attendaient à ce que l'armée les protège.
C'est tellement malheureux. Ils espéraient que les militaires vont venir et résoudre leurs problèmes pour que ces tueries puissent cesser. Maintenant, ils se sentent comme des orphelins. Ils sont fatigués. Ils veulent la paix et que règne l'application de la loi.
Sur les réseaux sociaux, les séparatistes ont accusé les soldats camerounais pour les pertes civiles. Ils ont également reconnu leurs propres pertes lors de ces raids et ont revendiqué la responsabilité d'un certain nombre de morts chez les militaires. L'armée a nié avoir subi des pertes et a déclaré que seuls quelques soldats ont été blessés. Les rebelles anglophones se battent depuis 2017 pour se séparer de la majorité francophone du Cameroun. Les rebelles et les militaires s'accusent régulièrement d'atrocités sur des civils, ce que des groupes de défense des droits ont documenté dans les 2 camps. Selon les Nations Unies, les combats dans les régions anglophones ont coûté la vie à plus de 3000 personnes et ont fait plus d'un demi-million de déplacés.
Au Sénégal, la propagation du Covid-19 a atteint un niveau alarmant en 30 jours. De moins de 200 cas positifs le mois dernier, le pays est passé à plus de 1000 cas avec une forte augmentation des cas communautaires. Les centres de traitement sont également débordés, poussant les autorités à prendre de nouvelles dispositions pour éviter le pire. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Les indicateurs essentiels et les analyses tirées des 30 derniers jours montrent une tendance fortement à la hausse, avec des cas confirmés qui sont passés de 190 à 1115 et les décès de 1 à 9. Ces chiffres fournis par les autorités sanitaires confirment la flambée déjà perceptible ces derniers jours. Et pour s'y adapter, la stratégie de riposte a connu un réajustement important, comme l'indique le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.
Nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques.
Cette nouvelle donne s'impose car l'épidémie touche pratiquement tout le Sénégal. 11 régions sur 14 et 33 districts sanitaires sur 79 sont concernés et plus de 5000 contacts sont isolés et suivis. Une situation qui motive les hospitalisations hors des centres de traitement pour éviter la saturation des hôpitaux. Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, explique le procédé.
Il y a des sites qui ont été identifiés. Le hangar des pèlerins de l'aéroport Les Paulsé à Senghor. Il y a la base aérienne de Thiès de l'armée, mais également il y a le centre des armées aussi de Guéraou. C'est des patients qui sont asymptomatiques qui vont y être. Et une équipe médicale sera déployée sur place 24 heures sur 24 et une ambulance médicalisée sera positionnée. Donc c'est des sites dans lesquels les patients seront pris en charge dans les meilleures qualités. Et aujourd'hui, on estime à 400 lits disponibles dans ces structures. Donc ça nous permettra un peu de pouvoir réserver un peu entre guillemets l'hôpital aux personnes qui ont vraiment plus de symptômes.
Pour le traitement des malades, le Sénégal avait adopté depuis plusieurs semaines le protocole du professeur français Didier Raoult et compte le poursuivre au vu des résultats concluants notés sur près de 200 patients et l'absence d'effets secondaires majeurs sur 300 autres. Professeur Moussa Seydi, coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients de COVID-19, donne les détails.
Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seul et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Vu de ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine et mieux avec l'hydroxychloroquine azithromycine.
Au-delà du terrain médical, le président Macky Sall a décrété le prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 2 juin 2020. Les autorités gouvernementales s'activent également pour le durcissement des sanctions à l'encontre des citoyens qui ne respectent pas les mesures liées à l'état d'urgence. À Dakar, Seydina Abba Gueye pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le secteur de l'enseignement est obligé de s'adapter face au COVID-19. Après la fermeture des écoles pour éviter les rassemblements, plusieurs gouvernements ont lancé des programmes d'enseignement à distance, soit à la télévision, soit sur Internet. Mais ces programmes d'enseignement sont-ils adaptés en Afrique où l'accès pour tous aux nouvelles technologies pose problème? Comment faire pour éviter que l'année scolaire ne soit perdue? Faut-il développer l'enseignement à distance en Afrique? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 7 mai 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Au Burkina Faso, des musulmans ont manifesté samedi pour la réouverture des mosquées fermées depuis le 20 mars pour cause de COVID-19. Cette pression a fait céder le gouvernement. Quelques heures après ces manifestations, les mosquées ont été rouvertes sur toute l'étendue du territoire national burkinabé, une décision qui fait suite à la réouverture des marchés après des manifestations de commerçants la semaine dernière. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Plusieurs dizaines de musulmans ont pris d'assaut les sièges samedi matin à Ouagadougou de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina. Trop c'est trop, ont-ils clamé, exigeant la réouverture des mosquées.
C'est 40 jours après en fait que nous sommes en train de revendiquer la réouverture des mosquées, parce que tout simplement on a fait le constat, on a réouvert les marchés, les bars ont été rouverts, il n'y a pas de raison en fait qu'on n'ouvre pas les mosquées. Quand on rouvre en fait sans condition les mosquées, parce que les musulmans sont fatigués de prier à la maison.
Grandes puissances ont tenté, par exemple la Chine, les États-Unis et l'Amérique, eux tous n'ont pas pu faire face à cette maladie. Il faut la prière, c'est le lieu où on peut demander pardon à Dieu pour que Dieu nous aide.
La pression a payé. Samedi soir, quelques heures plus tard, la Fédération des associations islamiques, tout en condamnant les manifestations, annonce la réouverture des mosquées après une rencontre avec le ministère en charge des cultes.
Actuellement, avec ce déconfinement partiel qu'on est en train de faire au niveau des marchés, au niveau des lieux de culte ou autres, on n'est pas sûr que vraiment la pandémie va reculer, on n'est pas sûr.
Boubacar Yougo, le président délégué de la FAIB, était reçu sur la chaîne privée BF1.
Il va prier davantage, comme on a dit. Je ne suis pas pessimiste, je ne sais pas, on ne connaît pas le comportement des uns et des autres par rapport aux mesures barrières. Nous, on avait fermé les lieux de culte, les mosquées, pendant que les marchés étaient ouverts. Et après, nous, on a fermé les marchés. Et quand on ouvre le premier le marché de Loko, Après, on ouvre les 27 marchés de Kariogo. Bon, et qu'on veut reprendre les cours à l'école et on veut relancer les activités. C'est difficile pour un religieux de dire qu'on ne peut pas aller à un lieu de culte.
Contrairement aux musulmans, l'église chrétienne, elle, dans un communiqué, affirme maintenir la fermeture de ces lieux de culte. Des lieux de culte qui sont restés fermés pendant la période de Pâques. Mais certains analystes estiment que la position des musulmans peut se comprendre.
On peut comprendre un peu aussi leur impatience quand on sait que d'autres secteurs à risque également en termes de contagion pour le Covid-19 ont obtenu en tout cas la levée des mesures restrictives sous condition par l'État.
Lionel Bilgo est analyste politique.
Plus que jamais impatient au vu du mois de Ramadan dans lequel ils sont. Maintenant, effectivement, ce que cela révèle, c'est que ça met à nu un peu la fragilité de l'État. Ça nous fait poser la question en tout cas de qui gouverne et qui décide vraiment dans le bateau burkinabé.
Le gouvernement n'a fait aucune réaction concernant cette situation. Mieux, après la réouverture des marchés, des mosquées, le secteur des transports va aussi reprendre mardi. À la date du 2 mai, le Burkina compte 662 cas de coronavirus avec 45 décès. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La condamnation pour harcèlement du journaliste béninois Ignace Sossour pour une série de tweets portant sur l'intervention du procureur de la République lors d'un débat sur les fake news organisé par Canal France International provoque toujours l'indignation des journalistes. Ils trouvent que le code sur le numérique est une arme contre les professionnels des médias dans le pays. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Tout a commencé le 19 décembre 2019 lorsque le journaliste béninois Ignace Sossou, collaborateur du consortium international des journalistes d'investigation, est arrêté chez lui par la police républicaine. Après 4 jours de garde à vue et une perquisition à son domicile, tout est allé très vite. Il comparaît lors d'un procès vite fait puis est condamné à 18 mois de prison ferme. Pour l'Union des professionnels des médias présidée par Zakiat Latoudi, cette condamnation est une violation des droits les plus élémentaires du journaliste au Bénin.
Il y a cette nouvelle façon d'interpeller surtout les acteurs des médias où les forces de l'ordre se rendent à leur domicile très tôt le matin. C'est à croire que les professionnels des médias sont devenus des bandits de grand chemin ou de vils individus. Et ça, c'est une situation que nous déplorons et dénonçons véritablement.
Mais de quoi est accusé le journaliste Ignace Sossou la veille de son arrestation, il avait posté sur les réseaux sociaux des propos attribués au procureur de la République, Mario Metonou, intervenant lors d'un forum organisé à Cotonou par Canal France International sur les fake news. Le procureur accuse le journaliste d'avoir sorti ses propos de leur contexte et lui enjoint, épaulé par les équipes de CFI, de supprimer ses publications, ce qu'a refusé Ignace Sossou, prenant une telle injonction comme une violation de ses droits. La suite est connue de tous. Le journaliste a été jugé coupable de harcèlement par le biais d'une communication électronique, délit instauré dans le code sur le numérique en son article 550 alinéa 1 qui parle de harcèlement sur les réseaux sociaux. Pour cette journaliste qui préfère garder l'anonymat, cette condamnation n'a pas de sens.
Une condamnation qui, je pense, va à l'encontre donc de la dépénalisation des délits de presse au Bénin. On se demande aujourd'hui en quoi publier des propos d'une autorité, surtout quand on est journaliste, est du harcèlement. Juste là, les propos du procureur relayés par Ignace Sossou n'ont pas été démentis.
L'agence de coopération Canal France International qui organisait le séminaire du 18 décembre 2019 avait écrit dans un courrier qu'elle se distanciait de ses publications sur Facebook et de ce type de pratique qui manque de toute déontologie et donne un mauvais nom à la profession dans son ensemble avant de se raviser plus tard dans une seconde lettre appelant à la libération du journaliste. Pour les journalistes béninois, le procès en lui-même est une farce et démontre une intention de nuire et de bâillonner une presse toujours à la recherche de ses marques. La preuve, les journalistes qui ont accepté se prononcer sur le sujet ont préféré rester dans l'anonymat.
Voilà un procès où aucun élément matériel, aucune preuve n'a été portée à la charge d'Ignace Sossou.
De Cotonou, Ginette Fleur dans les Pouvées au Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Georges-Léonard Sagnot, Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.